Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche avec celui qui nous gratifie de ses passions qui sont bien sûr la nature, vous le savez, mais pas simplement les rapports humains aussi dans cette passion qui est la sienne. C'est Jean-Pierre Fleury. Aujourd'hui, nous serons de nouveau, histoire de se réchauffer un tout petit peu, on va rester encore et toujours dans la savane, le tout orchestré par Stéphane Cazalong, Tony Jaffery qui est avec nous. Et c'est parti.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Et parce qu'avec le froid qu'il fait, ça fait du bien de se réchauffer. Bon, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, bonjour. Ça va ?
Ben oui, ça va très très bien. Alors, replonger dans la savane, pour moi, c'est...
On y retourne, ouais.
Et puis bon, je pense qu'on n'est pas les seuls à aimer la savane. À préciser à nos amis qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux d'après ce que l'on m'a dit, c'est que la savane, c'est l'Afrique.
Oui, 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 oui. C'est un mot que je réserve, qui doit être, je pense, réservé à l'Afrique. Elle est caractérisée par... C'est pas le plein désert, c'est pas non plus la forêt équatoriale, c'est-à-dire c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est une zone qui est boisée. Au sol, il y a très peu de couvert. C'est une zone relativement sèche. C'est celle qui est vraiment l'histoire de l'Afrique. On attend qu'il pleuve, si vous voulez. C'est ce qu'on voit dans à chaque fois, le nombre de documentaires qui ont... On peut pas peut-être faire autrement avec toujours le même schéma, c'est-à-dire la mare où tout le monde va boire, ouais. qui s'assèche, c'est absolument dramatique. Et puis il y a Chita, la panthère, qui peut plus nourrir Léon, son petit, etc. Enfin, j'ironise un petit peu. Mais et ensuite arrivent les pluies et ainsi va le monde depuis qu'il a été créé. Donc c'est des zones qui sont inondées, où il y a de la boue d'ailleurs. Cette période-là est très très peu connue parce que aller en Afrique, dans cette Afrique-là, quand c'est la saison des pluies, c'est quasiment impossible. On peut pas y aller. Il y a pas, même le meilleur des 4x4 ne peut pas y aller. Et puis, bien sûr, on y va quand la saison sèche commence à arriver. Et là, bon, effectivement, il y a encore des immensités où la main de l'homme n'a pas mis les pieds, suivant le principe des grands explorateurs. Et là, il y a cette vie fantastique. Alors, on l'a dit, on a déjà parlé de la savane. C'est un petit peu un écho à ce qu'on a fait. Peut-être que c'est l'écho des savanes. Il y a une. D'ailleurs, cet écho dans les savanes, il y a un son. Hein. Le son de la savane, je le reconnais entre mille, si j'ose dire. C'est assez étonnamment, c'est celui des oiseaux et en particulier celui des tourterelles. Voilà. Là, oui, il n'y a pas que des tourterelles, mais c'est le son des oiseaux. Parce qu'il y a ces arbres, il y a beaucoup de choses à manger dans les arbres. Il y a énormément d'insectes au sol, des insectes dans les arbres, il y a des graines. Et donc, il y a une tourterelle par arbre, pratiquement, comme il y a des milliards d'arbres qui sont pas forcément des très grands arbres. C'est surtout des arbres de la famille, j'allais dire, globalement des acacias. Il y a toutes sortes d'acacias, de robiniers, etc. Et donc, c'est ce son-là, c'est ce genre de son qui est le son de la savane.
Puis il y a des arbustes aussi qui sont très très bas et qui sont très utiles, parce que tout le monde dit, oui, des petits arbres. Oui, mais des petits arbres qui servent à nourrir pas mal de populations, aux gnous.
Qui servent à nourrir. D'abord, à quoi servent-ils ? À être eux-mêmes. Ils sont là pour eux. Hein. Et effectivement, dans cette savane, tout le monde mange tout le monde. Donc, on commence bien sûr, il y a tous ces herbivores, qui sont en particulier les antilopes, qu'on a évoquées récemment.
Ah oui, oui, tout à fait.
On a parlé de ce fantastique Dick Dick, qui fait 1,8 kg. Hein, et il y a des grandes antilopes, l'élan du Cap qui fait 1 tonne. Il y a des grandes antilopes ce ne sont pas vraiment, mais qui vont brouter très très haut, ce sont les girafes. Et puis on redescend, toutes les strates, toutes les feuilles sont broutées, abrouties, comme on dit. Et tout le monde mange tout le monde. Il y a énormément d'herbivores.
Oui.
Et il y a bien sûr des carnassiers qui vont manger un petit peu tout le reste. Alors dans ces animaux, on s'était bien amusé il n'y a pas longtemps. Avec tous ces animaux. Ce qui est complètement étonnant, c'est... Encore une fois, on ne va pas employer le terme de survie parce qu'ils sont là pour vivre. Hein, c'est l'adaptation leur a donné les moyens de vivre et non pas de survivre, c'est différent. La survie, c'est quelque chose qui arrive quand il y a des pics.
Oui, mais ça, c'est l'appréciation humaine qui dit survivre. Mais
oui. Non. Mais les mangoustes qui sont très chauds là-bas,
c'est chouette, ça.
Elles ne survivent pas, elles vivent. Hein. Alors, à condition, bien sûr, que les hommes n'aillent pas les obliger à survivre, c'est-à-dire en changeant le milieu dans lequel elles vivent et dans le milieu pour lequel elles ont évolué. C'est langouste, c'est long.
Langouste, oui, elle est bonne. Elle est bonne. On la garde, comme on disait dans le métier.
J'en pince pour elle, oui. Les mangoustes avec, bien sûr, parmi les mangoustes, les vedettes, des vedettes, les suricates.
Ah oui, ça, c'est... Ah.
Alors, c'est pas des souris cats, c'est pas des souris qui sont des chats, hein, c'est vraiment de la famille, de la grande famille des langoustes, c'est des cousines. Il y a les langoustes rayées, les mangoustes rayées.
Oui.
Je vais pas y arriver.
Ah, mais ça fait du bien.
Il y a les mangoustes mayonnaise.
Non, oui. Oui. Au curry aussi.
Oui, voilà. Hein, et donc, c'est des personnages qui sont vraiment très sympas. On va voir qu'ils ne sont pas que sympas.
Les suricates, c'est un personnage de bande dessinée, quoi.
Ah, mais complètement. Bien sûr, là, on fait un tas d'anthropomorphismes. Oui. La nature, alors, il fait très, très chaud. Hein. La nature les a dotés, par exemple, d'une paire de lunettes noires.
Oui.
Alors, c'est vrai, il n'y a pas de verre, mais il y a les bords. C'est-à-dire qu'ils ont des sourcils. Ils ont un cercle noir autour des yeux.
Ah non, c'est impressionnant.
Fantastique. Ça leur donne une allure. Ils sont droits. Ils sont fichés sur leurs pattes, tout droit comme ça, comme des piquets, et avec les bras ballants. Hein. Et puis ils regardent. Hein.
Alors, c'est vrai qu'on les surnomme les sentinelles du désert.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'elles font le guet, hein, comme à l'école. On disait, quand on faisait une bêtise, il y en a un qui faisait le P.
Ouais.
Vous vous souvenez de l'expression ?
Ouais.
Hein, ben, y en a là qui font le P. C'est assez marrant parce que les suricates mangent, creusent la terre. Ils font d'ailleurs des terriers fantastiques, mais ils creusent la terre parce qu'ils ont un sens de l'ouïe fantastique et ils entendent leurs pas qui sont dans le sable. C'est très sableux.
Wow.
On dit les suricates, c'est le Kalahari. Hein. Donc c'est le sud de l'Afrique. C'est entre le Kalahari, c'est entre la
Grand
Namibie,
désert, quoi.
La Namibie et l'Afrique du Sud. Un endroit très froid, très chaud, très froid d'ailleurs. Et donc elles entendent leurs proies, qui sont très souvent soit des petits serpents, soit des scorpions et autres, qui sont enterrés. Donc ils ont les suricates, ils ont la tête dans le sable pour bouffer. Quand on a la tête dans le sable, on voit pas forcément ce qui se passe derrière. Eh bien, l'évolution a fait que, et c'est assez étonnant, ceux qui sont repus, qui ont bouffé, ils deviennent sentinelles, ils font le P.
C'est extraordinaire, ça.
Et ils ont une trentaine de cris différents dans lesquels il y a un cri pour dire « Attention, il y a un serpent. Attention, il y a un aigle. » Parce que le danger vient de partout pour ces petits animaux. Ne font un kilo tout mouillé. D'ailleurs, ils ne sont jamais tout mouillés parce qu'ils vivent au milieu du désert.
En plus. Mais alors, ce qui est assez étonnant pour ceux qui auraient la curiosité d'aller sur la toile voir des petits films, parce qu'il y a énormément de films animaliers qui ont été tournés sur eux, c'est que quand ils sont debout, ils sont trois ou quatre, vous mettez une musique derrière, on a l'impression qu'ils dansent, quoi. Parce qu'ils tournent en même temps, quoi. Il y a une chorégraphie.
Oui, tout à fait. Ils sont... Parce que, justement, ceux qui font le P, il y a quelque chose qui arrive. Toutes les têtes se tournent vers l'endroit d'où vient le danger. Et donc, tout le monde se tourne. C'est des mangeurs d'insectes. Insectes et arthropodes.
Ouais.
Dans les arthropodes, il y a bien sûr les scorpions. Hein, et puis là-bas, il y en a des vilains. Hein, mais ils sont immunisés.
Hein. Ah, d'accord.
Ils peuvent se faire mordre. La douleur va peut-être leur faire mal au point qu'ils vont tomber dans le coma. Hein, et puis après, bah, ils se réveillent et puis ils recommencent à déterrer.
Ils sont immunisés, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors, vous nous dites qu'ils sont carnivores, mais ils sont pas aussi un petit peu herbivores, non, insectivores.
Bon, ils cherchent. Il semblerait que l'eau dont ils ont besoin, ils la trouvent dans un fruit extrêmement particulier, hein, et que c'est en mangeant ce fruit qu'ils arrivent à avoir suffisamment à être hydratés. Et bon, c'est donnant, puisque en mangeant ces fruits, les graines partent dans les fesses de ces animaux et ça permet à la plante d'aller se reproduire plus loin. Alors, ils ont une vie sociale très, très développée.
Hein. Ah, ils vont ou pas ?
Et Et avec, d'ailleurs, on s'aperçoit que les sentinelles ne font pas toujours leur boulot, parce qu'il y a énormément de naissances, et la Terre n'est quand même pas envahie par les suricates.
Non.
Donc ça veut dire qu'il y a de la casse. Mais ils sont tout le temps en groupe, et cette vie en groupe fait qu'il y a, par exemple, des nurseries. Hein, les petits sont gardés par des relativement jeunes, dont le boulot c'est de garder les portées
et de les nourrir.
Alors justement, on sait les petits apparemment têtent ce qui se présente. C'est pas forcément la maman qui les nourrit.
On parle du système social. La couleur, elles sont comment? Elles sont toutes pareilles? Couleur beige?
Oui, pratiquement, blond. Parce que une autre défense, c'est l'homochromie, c'est d'être camouflé. Donc il vaut mieux être couleur sable que d'être couleur bleue ou rose. Hein, parce que ça attire moins les regards. On a dit que on s'est attendri sur le fait que sur la crèche, tout le monde s'occupe de tout le monde et autres. Là, rapidement, il y a deux points assez négatifs quand même, on va le voir.
Aïe.
Oui, c'est qu'ils pratiquent très souvent le cannibalisme.
Quelle raison?
Parce que c'est comme ça, cher monsieur.
Ah, il n'y a pas une raison particulière, c'est pas
non,
parce qu'il n'y a plus rien à manger, donc on va manger...
Il y a des histoires de chaleur, de repartir, etc. Certaines mères vont manger les petits d'autres mères. Ça s'est vu, donc je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, c'est surtout aussi, les suricates, c'est des gangs. Hein.
Ils se pourrissent entre eux, entre groupes.
Ah, oui, c'est la guerre des gangs en permanence chez les suricates. D'un gang à l'autre, hein, c'est le... Donc voilà.
C'est quoi par rapport à la position sur le territoire? Chacun défend son territoire, quoi, en définitive.
Oui, c'est-à-dire que un gang a un territoire, c'est exactement la définition des gangs qui a place dans certains endroits. On va dire New York, parce que c'est plus loin, et ça ne nous engage pas, mais il y en a certainement beaucoup plus près de nous. Hein, et on défend quelque chose. Donc, parce qu'on est du même endroit, parce que c'est. Donc, ainsi est fait le. Faites la nature.
Voilà donc les suricates qui sont souvent filmés et présentés comme. Alors, ils sont gentils, je sais pas, moi, j'irai pas jusqu'à. Bon, d'abord, ne les approchez pas, foutez-leur la paix. Quand vous les voyez, c'est déjà une bonne chose si vous avez l'occasion de les voir. Dans la chaleur du désert de Kalahari, où, à mon avis, il n'y en a pas. Vous n'êtes pas nombreux à avoir été dans le désert, sauf Jean-Pierre Fleury.
Oui, moi j'étais pas tout seul.
Hein, oui, non, mais je m'en doute.
Il y a des souvenirs fantastiques dans ce désert.
Alors, le cri, on en a parlé de ces suricates.
Il y a une trentaine de cris.
Chaque cri donc définit un danger ou pas. Hein. Alors, ils vivent ils ont une société bien organisée, puisqu'ils vivent en clan, en définitive.
Voilà. Oui, avec tout ce que ça. Justement, le mot clan. Comme le mot gang, ça peut devenir péjoratif.
Quoi. Aussi.
C'est un peu un repliement sur soi-même.
Joli.
Voilà. Un autre. Celui-là, c'est la vedette des vedettes.
C'est lequel?
C'est mon préféré. C'est la famille des orilles.
Les orilles.
On n'a pas dit les gorilles.
Non, oui, on ne va pas confondre comme tout à l'heure.
Faut ouvrir ses oreilles.
Les oreilles. Ah oui, il est beau celui-là.
Il est pas mal celui-là. Hein. Alors celui-là, bon, on va le décrire un petit peu. Il ressemble un petit peu à un blaireau. Hein. C'est beau un blaireau.
Oui, c'est vrai.
D'accord.
Non,
il n'y a pas de.
Il n'y a pas de blaireau.
Il y a celui-là qu'on appelle le blaireau africain. C'est un cinglé. Hein, on l'appelle aussi le ratel. Hein. Le zorille du Cap. C'est un féroce, un tenace, un inconscient qui n'a même pas peur.
Il n'est pas de rien.
De rien, il est capable d'attaquer un lion.
Ah oui, d'accord. Donc il a.
Ça veut dire que notre bestiole. Là,
il a buffelé, quoi.
Il fait 12 kilos tout mouillé, dont là-dedans environ 8 kilos de testostérone. Pour le monsieur, il ne faut pas aller le chercher. C'est un nerveux d'ailleurs, et il le sait. Il y a un truc qui est assez étonnant. Il est tellement excité, le bestiau, qu'il est obligé de prendre des bains de quiétude, si j'ose dire. On le voit, foutre sur le dos, se mettre du sable dessus, hein, pour se dire.
Pour se calmer.
Zori, calme-toi.
Alors, vous savez que dans les bandes dessinées, et dans pas mal de Witch, dans les bandes dessinées, il est souvent présent. Alors, on le montre allongé sur le dos. Tout le temps. Moi, j'ai jamais vu debout. On le montre allongé sur le dos. Alors, peut-être une caractéristique, justement, pour montrer que bon.
Oui. Faut calmer. Alors, mais l'autre caractéristique, c'est qu'il a peur de rien. Et il a une méthode. qui est pas très sympa. On l'a vu, hein, moi je l'ai pas vu, mais il y a des, dans la littérature, on l'a vu plusieurs fois attaquer un buffle. Le buffle, 700 kilos, 800 kilos.
Oui,
le zori, 12 kilos. Et il l'attrape où ?
Eh oui, eh oui.
Aux choses.
Eh oui. Et c'est là qu'il, eh oui, c'est là qu'il
il
le fait.
Il est mort au scrotum.
Et puis, oui, et là, le pauvre, bon...
Ben là, l'autre...
Oui, il y a quoi
oui. Donc, il peut en venir à bout. C'est pas très loyal, mais ça, apparemment, c'est efficace.
Bon, c'est donc c'est un carnivore.
Ah, c'est un carnivore. C'est un charognard carnivore.
Il fait
tout ce qu'il peut. Il y a un truc qui est complètement étonnant aussi. Il impressionne son adversaire en dansant.
Ah ouais.
Il fait une sorte, en dansant, et à mon avis, il l'impressionne et il l'étonne. Parce qu'il fait une sorte de moonwalk.
Ah oui.
Ah oui.
Ah mais c'est peut-être que ça vient de là, alors, le moonwalk de Michael Jackson.
Peut-être, oui, voilà, on a trouvé. Hein. Et d'ailleurs, vous imaginez la bestiole dans le désert.
Ah, ouais,
c'est,
ouais.
Que, c'est pour ça que c'est quand même un préféré, celui-là. Alors, il a un cousin, d'ailleurs, hein, au Canada, qui s'appelle le carcajou.
Je ne connais pas. C'est le même.
Il ressemble beaucoup.
Mais celui-là, dis-toi, il est magnifique, avec ses rayures
blanches.
On l'appelle
le glouton.
Ah bah oui, d'accord.
Ouais, voilà, ça veut dire pas mal de choses. Alors, il fait le moonwalk, parce que là aussi, c'est particulier. Il a un autre point commun avec l'homme, peut-être. C'est que c'est parmi les très rares mammifères, être capable de reculer comme il faut.
Ah oui.
On fait reculer un cheval ou autre, on voit que c'est contre nature.
Oui.
Il le fait.
Lui,
la plupart des chiens ne peuvent pas le faire. Ils le font, mais c'est pareil, ça ne fait pas partie de leur vie naturelle.
Alors que lui, tranquille.
Lui, il le fait tranquillement. Et, ça étonne tellement celui qui est devant qu'il se laisse prendre.
Quoi. Mais Jean-Pierre, il se tient debout comme les suricates, sur les pattes arrière.
Oui, il peut monter aussi comme ça. Hein, Il danse, il mord les choses du buffle. Enfin, c'est quand même. Il est omnivore. C'est aussi et surtout, d'ailleurs, on reviendra là-dessus parce qu'il a d'autres concurrents. C'est un mangeur de termites.
Ah, d'accord.
Et il adore le miel.
En tout cas, il est considéré comme un hargneux, comme vous le disiez.
Ah, c'est un tenace. Hein, c'est tenace.
Joe Dalton.
Oui, c'est un très vilain joujou. Il est fou de miel.
Ah oui.
Ouais. Et le.
D'ailleurs, ah, monsieur est gastronome, alors quoi, monsieur.
Oui, complètement. Et monsieur, donc, il est appelé mélivore. Méli, c'est le miel.
C'est le miel,
ça.
Tout à fait.
Ouais. Dans un méli-mélo tel qu'on en fait
tel
tous les dimanches.
Fait, ouais.
Le méli, c'est le miel, et le mélo, c'est la pomme, d'ailleurs.
Alors, on va écouter une chanson. On va rester, d'ailleurs, en Afrique avec la chanson qui s'appelle Savane, d'ailleurs. C'est Ali Fraka Touré qui nous chante donc son pays. Et puis, on se retrouve avec Jean-Pierre Fleury pour parler encore de ces animaux assez étonnants. Là, on va passer en revue la mangouste. On n'a pas été dessus. On va y revenir.
C'est un peu le suricate.
Hein. Voilà. Mais si c'est le suricate et les oreilles, c'est magnifique. Ils sont beaux à voir. Puis l'organisation. Puis en plus, ils font rire. Donc, c'est bien aussi de s'attarder là-dessus.
Petit boulot, oui, je suis un d'autres pays. Adieu, ça va. J'ai trouvé n'est pas un petit boulot. Mais je suis Jésus.
Ali Fracatorea, vous avez reconnu cet instrument assez particulier qu'on appelle la kora, qui est l'ancêtre de la sitar, avec des cordes que l'on pince comme ça. Nous sommes effectivement aujourd'hui en Afrique.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Ouais, si par hasard vous avez l'occasion d'aller en Afrique, n'hésitez pas à aller voir des concerts de kora et de balafon, c'est vraiment magique. Jean-Pierre, donc on est bien planté dans la savane africaine, oui. Où on a passé en revue déjà le zori et le suricate.
Le zori, on va parler de son dessert, si vous voulez.
Il y en a d'autres aussi, dis-toi, mais j'ai vu une chose, ils sont présents un peu partout, parce que il y a l'Afrique, bien évidemment. Mmh. Il paraît-il qu'il y aurait des espèces aussi en Irak, au Turkménistan, au Pakistan, en Afghanistan, et même au Népal.
Eh ben, écoutez,
c'est un truc de fou, ça.
Lui, au Canada, il y a, on sait.
Il y a le cousin.
Oui. Le dessert du ratel.
Le miel, alors.
Le miel. Alors, on avait peut-être déjà parlé d'un oiseau complètement étonnant qui s'appelle l'oiseau indicateur.
Exact.
L'oiseau indicateur, c'est de la famille des guêpiers, des méropidés, et qui vit en Afrique aussi. Et le ratel a fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il a... Alors, le ratel, il ne le fait pas exprès. L'oiseau, lui, il s'approche des humains, il va chercher les humains, les pygmées en particulier, en leur disant « suivez-moi ». Les pygmées savent qu'il faut le suivre, hein, parce qu'ils savent ce qu'ils vont trouver au bout. Au bout, ils trouvent une ruche sauvage, qu'ils n'auraient jamais trouvée. Donc, le boulot pour les hommes de complètement dénicher la ruche, de la châtrer, de la foutre en l'air pour récupérer les rayons qui sont dedans. Après, le guêpier, lui, va manger le miel, va manger les larves. Et ensuite, la même chose pour les ratels. Ils essayent de prévenir les humains. En tout cas, ils se laissent suivre, alors qu'habituellement, ils sont pas faciles à fréquenter. Ils se laissent suivre. Ils amènent les humains jusqu'à la ruche. Et c'est la même chose. Ensuite, les humains prennent le miel, en général, sans aucune délicatesse, hein, puisque la ruche ne sert qu'une fois, en l'occurrence. Elle est complètement pillée. Et ensuite, ce qui reste, les ratels le mangent. Quoi.
Ah d'accord. Donc, c'est une main lave l'autre, quoi.
Oui, c'est 50-50.
Dites-moi, je viens de regarder une image, là, un petit film de 30 secondes, où vous disiez effectivement qu'il se tenait debout et qu'il marchait, il faisait marche arrière. Mais ce qui est un truc de dingue, c'est qu'il court en marche arrière, en plus.
Oui, c'est ça, il est très à l'aise. Il n'y a guère que l'homme et ces animaux qui soient capables de le faire.
Alors, il a deux caractéristiques aussi, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vais le rappeler parce que c'est assez rare. C'est que d'abord... il défend chèrement et courageusement sa vie.
Ça se laisse pas faire.
Et paraît-il qu'il est rancunier, ce petit coquin.
Oui.
Donc c'est qu'il a la mémoire.
Ça va très bien dans le.
Et puis dites-moi les griffes qu'il a sur les pattes.
Il est totalement armé. La nature lui a donné une mâchoire fantastique, lui a donné les moyens d'être arrogant. Mais c'est surtout une question, je vous dis, de d'hormones. Il y a quelque chose qui fonctionne mal. Je pense qu'une bagarre entre deux mâles ratels pour la domination, ça doit être quelque chose. Ça doit y aller.
Ils disent d'ailleurs que, paraît-il, qu'il briserait des carapaces de tortues.
Oui, il a une mâchoire fantastique.
Bon.
Alors, il est aussi, il est capable. Alors lui, il est capable de s'attaquer aux serpents. Il y a des serpents extrêmement dangereux. C'est-à-dire, et Dieu sait s'il y en a là-bas. Hein, la vipère heurtante, par exemple, qui est quelque chose de pas du tout sympathique. Et il se laisse mordre.
Hein. Il a les mêmes caractéristiques que le suricate aussi.
Oui, beaucoup plus que le suricate d'ailleurs. Il est encore plus, parce que lui, il est mithridatisé. Hein. C'est-à-dire que alors on va dire ce que ça veut dire après, mais on va continuer. Justement, ce ratel, il est capable, il se laisse mordre. Il va lui aussi, d'ailleurs, il peut tomber dans le coma. Il se réveille. Où suis-je ? Qui suis-je ? Et puis il repart chasser. Hein. Donc c'est un costaud. Alors il est mithridatisé. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? On se souvient de Monsieur Mithridate. Hein. Mithridatisé, ça veut dire que petite dose plus petites doses, les unes après les autres, l'organisme finit par s'habituer au venin. Hein. Donc, et ensuite, comme les doses, comme il y a la réponse, quasiment une réponse immunitaire, si vous voulez, qui est, c'est pas le même processus, mais ce sont les mêmes effets. Après, lorsque il est réellement mordu par une vipère, ça lui fait rien.
Alors, ce qui est fou, c'est que, en préparant ce rendez-vous, il était mentionné dans des documents, je ne sais plus où je l'ai trouvé, que c'était les mères qui... immuniser les petits à se faire mordre par les serpents.
Alors des petits serpents. Oui. Hein, il faut pas tout d'un coup, mais ça fait partie de l'éducation. C'est fantastique. D'un côté, il y a cette extrême violence. C'est toute la nature qui est là. Il y a cette extrême violence, et puis il y a les soins, effectivement, d'une mère qu'on peut, sans faire trop d'anthropomorphisme, on peut se dire qu'il y a de la tendresse là-dedans. Mithridate, c'est un personnage bien sûr de bien longtemps avant, peut-être même de la mythologie, il s'était insensibilisé à tous les poisons, donc il risquait pas d'être empoisonné, mais il a eu un vrai problème, c'est qu'un jour il a voulu se suicider avec du poison.
Eh ben oui.
Mais il a pas
raté.
Raté.
Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que vous dites les morsures, Jean-Pierre, mais il est immunisé contre tout, parce que les piqûres de guêpes, tout ça, tout doit y passer, quoi. Les piqûres de porc-épic, par exemple.
On parlait de c'est différent. Non.
Il risque rien, non?
Si, parce que la piqûre du porc-épic, qui est le fauve le plus terrible qu'il puisse y en avoir en Afrique, puisque c'est lui le grand prédateur des lions, alors on va expliquer pourquoi, c'est pas avec les dents, c'est avec les piquets du porc-épic, les piquants, pardon, qui se détachent. Donc là, c'est une blessure physique, c'est pas une attaque chimique.
Le venin, c'est chimique. Il n'y a pas un poison dans le
Non, non, il n'y en a pas. Le poison, c'est simplement une blessure. Le pic reste dans la chair. Parce qu'il y a des ardillons dessus.
D'accord, ouais.
Et ensuite, effectivement, dans un milieu comme celui-là, si j'ose dire, la blessure s'envenime, et ensuite l'animal est affaibli. Et je rappelle que dans la jungle, dans la nature, un animal affaibli est un animal mort. Donc que ce soit un lion, que ce soit un buffle ou autre, on parle bien sûr, on se souvient de l'histoire, bien que ça commence à être contesté, des varans de Komodo, qui pourrissent. Par des bactéries en mordant. Bon, apparemment, il n'y a pas que ça, mais ça ne doit pas arranger parce que, effectivement, ils ont mauvaise haleine, ces bestiaux-là. Hein. Donc, ça fait qu'une morsure, l'animal qui a été mordu crève à petit feu, quoi, c'est certain.
Il a un autre atout, Jean-Pierre. Nous, on ne l'a pas, celui-là.
Ouais.
Ben, il paraît qu'il a une poche anale réversible. Il paraît que ça pue. Hein.
Ben, justement, oui, parce qu'on est tout près des mustélidés, c'en est pas un. Hein. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Le blaireau est un mustélidé. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un mustélidé. Le musc, ce fameux musc, qui est un parfum normalement, en tout cas le fixateur d'un parfum. Il y a cette poche à musc qu'on retrouve chez le blaireau, chez la fouine, chez la belette, pas le petit lapin, mais qu'on retrouve chez la marthe, la fouine, etc. La genette, qui est complète, la civette. D'ailleurs, la civette. On l'a dit déjà, mais on peut le répéter, c'est que beaucoup de tabac s'appelle la civette.
Civette, oui.
Parce que, autrefois, on parfumait le tabac avec du musc de civette, hein, c'est pour ça. Et donc, ce musc, M-U-S-C, hein, il y a une rue d'ailleurs à Paris qui s'appelle la rue du Petit Musc.
Oh, c'est joli.
Oui, mais ça veut strictement rien dire, ça c'est marrant. Petite hypocrisie. Là, on va du coq à l'âne, continuellement. Parce que c'était les gens voulaient, elle s'appelait comme ça parce qu'il y avait une dame de petite vertu qui travaillait là, qui se cachait. En vieux français, c'était la rue de la pute Imus. Musser, ça veut dire se cacher.
Se cacher.
Ouais. Donc c'est devenu comme ça en cherchant à peu près la même consonance, c'est devenu de la rue de du petit musc. Une autre rue qui a changé de nom. Ça va vous faire rougir. La rue du Pélican. À Paris aussi. Avant, elle s'appelait la rue du Poil au Con.
Oui, mais je préfère l'autre.
Oui, mais enfin, c'est comme ça. C'est pas mes inventions. Ça a changé. Hein, je suis désolé.
Je vous en prie. Oui. Je reviens sur la poche anale. Parce que
elle sert à quoi alors?
Tenez-vous bien. Puisqu'elles adorent les ruches.
Oui.
Eh bien, ça sert à neutraliser les abeilles lorsque le ratel attaque une ruche. Ça pue tellement qu'elle fout le camp.
Ah oui, d'accord.
Voilà, bon.
Ah oui, bah oui.
Je disais qu'à la différence de nous, on fait bien des vents. Hein, donc,
Oui, mais enfin, c'est pas...
Vous êtes à table, messieurs-dames.
Oui, on fait que ça, oui.
On fait que ça, oui. Dites-moi, ils habitent où, ces gens-là, nos petits ratels, dans les terriers.
Vous l'avez dit, hein, il est dans la zone de... Il n'est pas en forêt profonde, il n'est pas dans la forêt équatoriale avec ses immenses arbres, il est dans la savane.
Oui, c'est
donc au-dessus, en dessous de l'équateur. Je pense surtout dans la partie inférieure de l'équateur, au sud de l'équateur.
Donc c'est quoi, Afrique subsaharienne, ces zones-là quoi.
Ah oui, c'est non, c'est
sub-arabique,
sub-équatoriale.
Sub-équatoriale, ouais. D'accord.
Voilà, il n'est pas partout.
On va peut-être parler un tout petit peu aussi, à moins qu'on a tout dit.
Mais
presque.
Vous n'aimez pas les oryctéropes?
Mais moi, j'aurais préféré la mangouste quand même.
Alors, on y va, la mangouste. J'adore. Alors, la mangouste, elle est. Quand on a parlé du suricate, on a parlé des mangoustes. Avec tout, on prend la mangouste brune, etc. On fait un mélange et on a tout ce qu'il peut y avoir de sympa et d'éthologie chez la mangouste.
C'est vrai, c'est
la même chose pratiquement. Sinon, que le suricate a pris la vedette. Parce que
c'est rigolo, c'est lui sympa, quoi.
C'est la caricature de tous les côtés sympas des mangoustes. Ils sont des bestioles redoutables.
Mais les mangoustes, plus j'en viens quand on les regarde, c'est féroce. Hein, je veux dire, la tête, c'est pas quelque chose de sympathique
ça
à voir. Hein.
Non, pas du tout. Non. Oui. Quand on a un petit serpent, bien sûr. Alors les mangoustes, on rappelle que c'est celles aussi qu'on voit en Inde et autres.
Oui, qui
attaquent les cobras et autres. C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Hein, c'était insensibilité et vitesse extrême aussi. Les mangoustes, à certains endroits, ont un poil très long. Hein, ce qui fait que les crochets glissent dessus, c'est pas assez long. Elles sont extrêmement vives, elles sont là, elles sont plus là, elles vont à toute vitesse. Et en plus, il y a cette insensibilité au venin. Donc c'est vraiment fait pour ça. Hein, donc on peut peut-être les remercier, puisque je pense que dans l'ordre, on préfère les mangoustes aux serpents.
Oui, et puis en plus, un combat est toujours gagné par la mangouste. Hein,
oui, voilà, c'est pas juste.
Non, mais là, l'autre, il a son compte. Hein. Et alors, apparemment, il s'enfuit pas, donc il a un peu maso aussi, le cobra. Il la voit arriver,
oui,
il sait qu'il
va
y passer, mais non. Et on y va, quoi. Alors qu'elle, elle est persuadée que de toute façon... Bon, maintenant, Jean-Pierre, il y a serpent et serpent. Hein. Vous imaginez la petite mangouste face à l'anaconda, ils vont pas
ça n'a rien à voir, puisque l'anaconda, lui, c'est pas un serpent venimeux.
Oui, c'est vrai hein, aussi.
C'est juste c'est un muscle. Donc elle peut toujours aller mordre là-dedans, ça va strictement rien faire.
C'est vrai, ouais.
Et puis ce sera un amuse-gueule hein, pour l'anaconda.
Complet. Voilà, alors les mangoustes, vous avez dit, il y en a des centaines, hein, il y en a plein. Bon, la mangouste rayée, la mangouste bleue, la mangouste rouge.
Il y en a des rayées, des dépareillées, il y a tout ce que vous voulez.
Il y a tout ce qu'on veut là-dessus. Hein.
Ouais. Bon, l'oryctérope.
Alors, allez-y, l'oryctérope. Alors, c'est quoi cet animal?
Bah, c'est déjà une insulte. Avec l'anacolute et le pachibouzouk. Hein, c'est une insulte du capitaine Haddock.
C'est ornithéor.
Oric.
Oric,
c'est ça. O-R-Y-C-T-O-R-E-P-E. Hein, du Cap, pourquoi pas, parce que là aussi, on est encore dans ces coins-là. En Afrikaander, donc la langue de l'Afrique du Sud.
Il fait rire, cet animal.
Ah bah complètement, c'est le cochon de terre.
Bah oui, il peut. Ouais.
Oui, oui. Alors, c'est pas un petit quand même. On va imaginer la bestiole, on va essayer de la décrire.
Ouais.
Ça peut faire 70 kilos. C'est un animal qui est inventé par un enfant peu attentif et qui ne sait pas dessiner.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Ah bah oui, parce que on va le décrire là. Alors, il est complètement voûté. Encore une fois, c'est assez gros, ça fait 70 kilos. Il a des oreilles très longues et très minces, bien au-dessus de la tête, comme ça.
Ouais. Hein.
Il a un cou très court et un groin. Oh, j'entends la savane.
Ouais.
Là, les voilà, le voilà, mon son de savane. Hein. Avec on entend les tourterelles.
Mais
un groin qui n'en finit pas, des pattes courtes, des griffes énormes, et pour terminer un petit peu tout ça, une queue de kangourou.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, ouais. Et puis des poils qui sont ici ou là, comme ça, des touffes. Hein. Donc complètement bizarre.
Il ressemble à rien, il n'est pas beau. Hein.
Bah oui, mais enfin, là aussi, la maman kangourou, la maman
oryctérope,
elle trouve ses enfants très très beaux.
Oui, hein. Ça, je ne doute pas.
C'est un thermivore.
Ah, lui, il attaque donc tout ce qui est termites.
Ah, les termites. Il semblerait, alors, comptage difficile, mais gloire soit rendue à celui qui a pondu ce chiffre, il mangerait 50 000 termites en une nuit.
Ça fait quoi en kilos, ça?
Oh, ça doit en faire pas mal, là, c'est vrai.
Oui, ça fait bien 10 kilos.
Oui,
non,
ça fait, oui, oui, alors je divisais par, etc. Allez, oui. 5 kilos. 5 kilos.
C'est un cousin du fourmilier ou pas du tout?
Il a à peu près les mêmes mœurs, mais c'est pas un cousin du fourmilier. Ouais, parce que, effectivement, il mange des termites, mais il peut manger aussi des fourmis.
Des fourmis.
Mais il n'a pas, pas le même type de langue. C'est pas fait de la même façon. Hein, lui, quand il a un fourmilier peut manger des termites, il va passer la langue dans la termitière. Lui, avec ses griffes, il pète tout. Hein, c'est pas indélicat, ce cochon-là. Hein. Donc il est armé de griffes énormes. Alors lui aussi, c'est quand même un phénomène, parce que à chaque fois, qu'est-ce qu'il mange? C'est les animaux dont on parle, et qu'est-ce qu'il mange, hein? C'est-à-dire proie, prédateur.
Alors qui c'est, ces prédateurs? Parce qu'il est gros. Ah,
ben, c'est quasiment tout. Hein. Puisque, bon, d'abord les humains, parce que c'est dans le cochon. Dans le mot cochon, il y a quand même un peu de concupiscence. Hein. On imagine tout de suite gros la viande. Donc c'est un animal qui est très souvent représenté sur les marchés de brousse. Hein. C'est de la viande de brousse. Donc il subit pas mal de turpitude du fait des humains. Et puis, y a les lions, les léopards, qui peuvent. Et aussi d'ailleurs les pitons. Hein. Et donc, alors, il a des griffes qui sont énormes, et il a quand même, alors, il a aussi une particularité, et là, il prend la position d'un ours, si vous voulez.
Hein. Debout?
Debout.
Ah, mais c'est sa queue qui le tient, alors?
C'est la queue qui, tout sert à quelque chose. Et là, donc, il finit par éventuellement faire peur à ses adversaires, parce que c'est là, ou étonner, parce que vous imaginez ce truc. En plus, il émet des sons, hein, des grognements, des plaintes. Enfin, il se laisse pas faire. Il fait un terrier qui est extrêmement long, hein, jusqu'à 13 mètres de long. Il est capable, il creuse. Wow. Alors, il est né pour ça. Hein. C'est pas de la pierre qu'il y a là-bas, hein. C'est très souvent de sable aggloméré. En fait, ouais. Ces terriers sont souvent recyclés, ils servent à tout. Hein. Beaucoup d'animaux vont dedans, dont les pitons.
Hein. Ah, et là, bien
c'est
sûr.
Pour ça qu'il y a des salades des fois avec les pitons. Mmh. Et chez moi, non, je suis chez moi. Ouais. Et donc là, c'est.
Et qui gagne?
Ben, c'est, non, mais pas tout le temps, parce que il a des sacrés griffes. Hein. Et puis le piton, il n'est pas toujours adulte. Vous savez, il y a cette fameuse chasse, quelque part dans ces endroits qui sont complètement sinistrés, où il y a Boko Haram, là, au Cameroun, là, du côté des Comas, hein, une tribu qui est là-bas. On avait parlé de cette tribu a la particularité de se saluer en pétant.
Oui, exact, vous m'avez parlé de ça. Ah, ouais.
Ça existait, ça a été décrit en 1950, quoi, encore en 1950. Et dans cette même région, il y a des gens qui chassaient, qui peut-être le font-ils encore, qui chassent le python. Donc le python, il est très souvent dans un trou d'orichtérope. Et pour l'attraper, ils mettent leurs jambes dedans.
J'ai vu ça. Ah.
Donc la jambe, elle est recouverte vaguement d'une vieille toile de jute, un truc comme ça. Ouais. Le python arrive, il dit, tiens, un humain, c'est bon. Bon, il l'engame. Une fois qu'il est bien engamé, il y a les copains de l'autre qui tirent dessus, quoi.
Ouais, le problème, c'est que des fois, ils y passent.
Quand ça dure trop longtemps, oui, c'est là.
Il y a des sécrétions.
Alors, les sucs digestifs d'un piton, ça dissout une pierre, pratiquement.
Dis-toi,
on n'est pas que ça dure trop longtemps.
Nos copains, là, les orichtéropes, à vos souhaits, ils vivent en groupe. Ils sont.
Non.
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Oui, exactement.
Et les vaches seront bien gardées. Bon.
Exactement. Donc il y en a des bizarres, alors on en a d'autres, hein, dans la musette. Mais c'est... Et en plus, cet animal, l'orichtérope, je ne sais pas pourquoi, je ne vais jamais dans les eaux, okay, c'est peut-être la principale raison, mais j'en ai jamais vu. Est-ce que la plupart des autres animaux, de même que les ratels d'ailleurs, parce que ça ne doit pas être une sinécure, le type qui se retrouve une promotion,
ouais.
C'est toi qui vas soigner le ratel.
Oui, à mon avis,
vaut mieux l'avoir connu tout petit. Ouais.
Cela dit, et c'est une bonne chose, moi, je n'ai jamais vu de suricate, de reportage de suricate, par exemple, dans les eaux. Ils sont en liberté, c'est peut-être mieux.
Oui, oui. Mais les mangoustes, elles viennent très très près des maisons. Hein.
Oui.
Ça, c'est. Mais bon, elles sont en liberté, mais près des maisons, comme beaucoup d'animaux. D'ailleurs, ils viennent aussi.
En tout cas, l'oratelle, puisqu'on en parlait, est considéré. Non, mais il me plaît parce que je trouve qu'il a des couleurs magnifiques, tout d'abord. Il est considéré comme la terreur des savanes, quoi.
Oui, mais complètement. C'est... Mais au même titre que son cousin, le carcajou, malheur à celui au trappeur qui est isolé dans la neige et qui a affaire à un carcajou. Il risque fort d'y passer. Les carcajous s'attaquent, c'est à peu près la même taille, un peu plus gros, je pense. Sont capables de s'attaquer à un renne, sont capables de faire tête à un ours.
Il y a une histoire sur le ratel, Jean-Pierre, puis après on va écouter une chanson, qui dit un ratel, bon, qui précise que le ratel est doté d'une intelligence hors du commun, le volume du cerveau le précise, et il y a un documentaire à la BBC, qui relate une histoire étonnante à ce sujet. Ils avaient enfermé dans un enclos du parc national Kruger, en Afrique du Sud, un ratel, qui était nommé Stoffel. Il a pu s'échapper à maintes reprises, et son propriétaire explique avoir enfermé Stoffel dans un enclos, mais le ratel n'en a rien à cirer, et a simplement ouvert le verrou pendant que la compagne poussait la porte. Et donc, on peut pas. C'est un animal qui supporte pas d'abord d'être enfermé, et ça je le comprends, puis il n'est pas le seul. Et puis deux... Il y a la faculté de pouvoir, d'où l'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il attend que les gens s'en aillent, et à ce moment-là, il trouve tous les voies et moyens pour arriver à sortir, et il sort. Ce qui prouve que ce n'est pas un animal complètement idiot, quoi.
Non, mais je vous dis, moi, c'est un de mes préférés de la création.
Ah, celui-là, il est magnifique. Vous m'avez fait découvrir un animal aujourd'hui. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs. On va écouter Pedro Zandbelfouch et Jean-Luc Girodimi qui nous chantent Nadura, et puis on reviendra sur ces animaux de la savane. Avec Jean-Pierre Fleury.
Mugilo de silenzio lui seda candile di all'acquado un'auto all'arba Inde volle spirie di all'alba, na dura giuriente si sceda. Uso l'esperde, uso primo raggio, maestoso drabane di azera, strisce oro chi abampano a terra, la dura rige uso primo a giù. Armonia, chiamata natura, negna risse, trovata la chiamata natura, degna di essere trovata da tutti.
Due belle voix per un texte sublime, Nadura, Pedro Zandbelfouch et Jean-Luc Girodimi.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Les amis, aujourd'hui, grâce à Jean-Pierre, on passe en revue des animaux assez étonnants, beaux, certains d'entre eux, curieux, rigolos. Alors, on a parlé du suricate, on a parlé de la mangousse, on a parlé d'un autre dont j'ai pas oublié le nom, mais je n'arrivais pas à le prononcer.
Le rictérope.
Le rictérope, qui est le préféré de Jean-Pierre. Et le ratel aussi, qui est mon préféré. Et là, on va s'accorder tous les deux pour dire que l'animal dont va nous parler Jean-Pierre, c'est on aimerait l'avoir chez soi. Mais il ne faut pas. Laissez-le là où il est, c'est le fennec. Qu'est-ce que c'est beau.
Alors, c'est un petit renard qui a envahi la France métropolitaine en 1960, de 58 à 62. Mm-hmm. Oui, alors pas de
Et
manière naturelle du tout, parce qu'il revenait dans les bagages de nos soldats qui avaient été se battre en Algérie.
Et il les avait carrément apprivoisés.
Ah oui, il y en avait plein. C'était, moi, j'en ai vu dans, en Normandie, il y avait des fennecs. Alors qu'ils étaient bien sûr en cage, parce qu'ils n'étaient pas tous
ménagés.
Ils seraient morts, les pauvres pépères, de toute façon. C'est un petit renard. C'est le renard du désert, hein, comme Rommel, d'ailleurs. Hein, c'est d'ailleurs comme l'équipe de foot d'Algérie aussi.
Oui,
c'est
aussi, les fennecs. Hein. Ouais.
Hein, c'est pas facile quand ils jouent contre les éléphants de Côte d'Ivoire, par exemple.
Ouais.
Il y a un peu une disproportion. Alors, 1,5 kg.
Le lion de la Teranga.
Oui, exactement.
Sénégal.
Il y en a plein comme ça. Il fait 20 cm, c'est rien du tout. Mais dans ces 20 cm, il y a 8 cm d'oreilles, quoi. C'est un radar, le fennec.
Carrément.
C'est un radar, le fennec, parce que lui aussi, d'ailleurs, il chasse. Il entend ses proies sous le sable. Hein, lui, il est plutôt au nord. Hein, il est sahélien, le fennec. Hein. Donc, il a ses oreilles immenses. Il a une belle couleur beige Isabelle, la couleur du sable, parce que tout petit comme ça, il a quand même pas mal de prédateurs. Il consomme de toutes petites proies, hein, de gerboises. Vous voyez comment
oui,
ça
oui,
fait, les gerboises.
Gerboise, c'est tout petit rat, là.
Oui, il y a des rats harceurs.
Oui, hein. C'est mignon,
le rat kangourou, d'ailleurs, on appelle.
Hein. Oui,
et qui a aussi une particularité, c'est les petits de la gerboise, ils sont attachés à sa queue. Quand elle se déplace. Sur le truc. Il mange des œufs, des oisillons, enfin, un petit peu de tout. Quoi. C'est quand même un vrai renard. Alors, il a bien sûr que des prédateurs, toujours la même chose. Ces nichées qui sont assez nombreuses sont souvent pillées par les renards et les chacals.
Entre eux.
Ouais. Il y a d'autres renards. Hein. Il y a le vrai renard des sables. Il y a les 3 ou 4 espèces de chacals et non pas de chaco. Mm-hmm. Il y a d'autres canidés, les otocions, les ligaons, pourquoi pas, tous ces trucs. Donc il y a beaucoup de prédateurs potentiels. Et il y a bien sûr tous les rapaces. Hein, l'aigle bottelé est un grand prédateur de ces animaux.
Amateur de cette viande fraîche.
Alors, c'est un animal du désert, lui. Hein. Il y a un endroit où il y a très, très, très peu d'arbres, donc très peu d'ombre, avec des températures qui sont avec une amplitude colossale, puisqu'il fait 0 degré la nuit, et en plein soleil, 12 heures après, il fait 70 degrés. Donc, il faut s'adapter. Alors, il est protégé du froid par sa fourrure, et aussi...
Du chaud,
il creuse un terrier. Hein, qui va jusqu'à 2 mètres de profondeur.
Ah oui, donc en bas, la température est plus
clémente. Et là, c'est climatisé. Il n'a pas un gros besoin en eau, puisque c'est plutôt le sang de ses proies hein, qui l'hydrate. Hein. Et donc, et puis aussi, il a des reins qui sont adaptés, qui font qu'il n'y a pas besoin, qu'il passe beaucoup d'eau par là. On a dit qu'il ne fallait pas les confondre avec, etc. Bon, les renards, il y a d'autres renards qui ont la même réputation qu'en Europe, c'est-à-dire d'être malins et sages. Les Dogons, par exemple, qui sont un peuple qui est vraiment près de la nature, vont chercher des présages. Alors, de la façon suivante, ils font une sorte de d'échiquier sur le sable.
Ouais.
Que moi, j'ai vu, je comprends strictement rien. Et ils essayent d'attirer le renard, avec, d'ailleurs, c'est assez marrant, avec des cacahuètes. Et le renard arrive, et suivant la façon dont les empreintes du renard sont marquées, les Dogons peuvent prendre des décisions immenses. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans mon village? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je fais mes bagages? Je vais tenter de traverser la Méditerranée, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Le royaume Dogon, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour nos amis, c'est un peuple du Mali, hein, c'est en Afrique de l'Ouest, hein, les Dogons.
C'est la fameuse falaise, là où les gens sont extrêmement malheureux maintenant.
Tout à fait.
Parce que ils sont à nouveau, les conflits sont arrivés là-bas, et sans frapper, là, c'est arrivé d'un seul coup.
Ouais, ouais.
Le renard était quelque chose est un animal aussi qui est considéré comme étant extrêmement rusé, puisqu'on raconte l'histoire suivante, et je vais essayer de faire vite. C'est le roi qui est malade. Il envoie le renard chercher un remède, et le renard tarde. Lorsqu'il revient, le loup s'est installé, s'est installé, et lui, il prétend pouvoir guérir le roi. Et donc, le lion l'accuse, oui, t'as été traîné, etc. Et il lui dit, non, je suis allé chercher des idées quelque part, etc. Et puis il voit que le lion est extrêmement menaçant. Il lui dit, oh, mais c'est très simple, j'ai trouvé quelque chose. Il faut simplement que vous preniez les osselets d'un lion et que vous en fassiez une poudre. Et comme ça, vous serez guéri. Il est malin.
Alors, de ces renards, Jean-Pierre, on a parlé donc du fennec, du renard que l'on trouve. Alors, ils ont des couleurs, bien sûr, qui sont appliquées à leur territoire. C'est-à-dire qu'ils sont tous jaunes, sable et tout ça. Pour conclure, on pourrait parler quand même un tout petit peu des licaons, parce que licaon, c'est aussi. C'est un chien, c'est un félin.
Oui, c'est un canidé, au même titre que les chacals. Hein. Que les autotions. Les autotions, lui aussi a des très grandes oreilles. C'est relativement haut, hein, c'est à la taille d'un petit coursine. Les licaons, c'est les chiens loups, hein, licons, il y a loup dedans. Eux, c'est des cinglés, mais en meute. C'est-à-dire que c'est aussi la terreur de la. C'est une autre terreur, mais de manière collective, la meute, elle est la plus forte du monde quand ils restent soudés, quand ils jouent bien, si j'ose dire. Ils sont capables, eux aussi, de venir à bout d'un buffle adulte, d'un lion adulte, etc.
Oui, parce qu'ils traquent en meute.
Ils attaquent une morsure ici, une autre là, une autre là. Y en a 10 qui sont accrochés là et ailleurs chez le buffle. Et au bout d'un moment, la pauvre bête, elle capitule et elle est mangée.
On l'appelle le chien sauvage en Afrique.
Ah bah oui, il est plus que sauvage, oui. Il y a le mot lion dans son nom.
Oui, puis de toute façon, on peut pas. Alors, il y en a qui ont essayé de capturer pour les domestiquer. Tiens, mais cours toujours. Non, mais tu m'intéresses.
Tous ces animaux-là, vous savez, même les renards sous nos latitudes, c'est extrêmement difficile. On peut les approcher, mais j'allais dire, ils n'ont qu'un mètre, quoi.
Oui, sauf que ils approchent rapidement maintenant des habitations depuis quelque temps. Ils savent qu'ils sont pas forcément chassés, donc ils viennent grignoter.
Les renards corses sont particulièrement confiants et depuis fort longtemps. Et parce qu'on a dû leur foutre la paix. Il y a de très nombreux récits de bergers qui liaient connaissance avec des renards.
Hein. Carrément. Alors,
en leur apportant un petit quelque chose à chaque fois. C'est comme ça, on fait un petit bout de...
Un petit bout de chemin ensemble.
Voilà, et puis vous allez bien manger un petit peu de
pardon. Bon, Jean-Pierre, nous, on va se retrouver.
Bon appétit, alors.
Pourquoi pas. En tout cas, vous m'avez fait plaisir parce que j'ai découvert des animaux grâce à vous que je ne connaissais pas, notamment l'orcline top, là, je ne sais pas quoi. Il est rigolo, il fait rire. Bon, on a l'impression qu'il y a pas mal de cinéastes qui ont dû s'inspirer de ces animaux pour en faire des animaux extraordinaires.
Le Roi Lion, ils sont tous dedans, je pense.
Le Roi Lion, mais je pense aussi à Star Wars Lucas, il y a des animaux là-dedans. Ouais. Bon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler complètement d'autre chose. C'est promis.
On va parler du bois.
Dont on fait les flûtes.
Sauf
les flûtes. Bon, allez, restons gentils et surtout un excellent dimanche.
Faites un effort.